Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Olivier, John et moi-même, Evelyne, vous proposons une nouvelle émission de Quelles sont les nouvelles ? Pour commencer, nous avons extrait de notre fonds un texte publié en 2008 qui répondait au thème des frontières. L'auteur, Arnaud Dudek, s'était lancé dans l'écriture en proposant ses nouvelles à des revues, dont Les Refusés, avant d'écrire son premier roman, Rester sage, édité en 2012 chez Alma. Roman aussitôt remarqué puisque sélectionné pour le Goncourt du premier roman. Depuis, chaque année, il n'a cessé de publier romans et recueils de nouvelles. Voici donc French Doctor d'Arnaud Dudek, mis en voix par John et Olivier.
Ah, il déteste voyager. Oh, trop fatigant, hein, terriblement inutile. Du reste, il a horreur de perdre ses repères. Une bizarrerie dont est souvent son entourage. Eux n'aiment rien tant que piétiner dans des files d'attente dantesques menant à des pyramides ou des tours penchées, ou boire des cafés sur des terrasses lointaines, des terrasses qui ressemblent à s'y méprendre à celles de leur quartier. Hein. Se faire photographier par un autochtone devant un rocher magique, passer des heures à faire défiler des clichés devant un auditoire faussement fasciné. Ah, c'est pas son truc à lui. Pourtant, à cet instant précis, il est dans un avion. Il entame sa cinquième heure de vol et ce n'est pas fini. Oh, il y a encore beaucoup de route après.
C'est un jeune homme mal rasé, aux cheveux hirsutes. Il porte une vieille chemisette vert pomme. Physique taillée pour les grandes plages californiennes, les roms arrangés à l'ombre des naïades en maillot de bain de pièces. On l'imagine aisément en train de catapulter un ballon de football dans la lucarne de l'équipe adverse. On se dit qu'il doit certainement porter un prénom atypique, le nom de la communauté hippie où ont vécu ses parents, ou bien le mot tamoul qui désigne la voûte céleste. On le soupçonne de tenir un bar lounge, moderne et animé, au nom en forme d'alibi culturel, un Man Ray ou un Hemingway Café. Mais on se trompe en imaginant tout cela. Il s'appelle Mathieu, Mathieu Garcia, l'un des 20 noms de famille les plus portés en France. Il connaît à peine les règles du hors-jeu, il ne boit pas d'alcool et puis il déteste les bars, trop bruyants, trop enfumés. Derrière lui, de brillantes et sérieuses études de médecine. Il a fait des remplacements en banlieue parisienne, chez un généraliste aigri, passablement raciste, mais qui s'est pris d'amitié pour lui et paraît disposé à lui céder rapidement sa clientèle.
Et puis voilà, quelques semaines, Mathieu a surpris son monde. D'où l'avion, d'où la chemisette. Mathieu a brusquement décidé de rejoindre l'armée des Médecins sans frontières, d'aller soigner des populations défavorisées à l'autre bout de la planète. C'est pour apprendre l'essence de son métier, comme le suggérait l'un de ses professeurs, un éminent chirurgien en qui il avait toute confiance. L'observation, le diagnostic, l'étude des symptômes. Écouter un corps, être attentif à ses moindres mouvements, ni scanner, ni fioriture, les bases de la médecine. Mathieu va passer 6 mois en Afrique. Non pas à Hossegor, donc, hein, encore moins à Miami. Et se dépasser, lui qui déteste voyager.
À l'aéroport, Mathieu s'immobilise devant une feuille de format A3 où son nom est inscrit au marqueur. Derrière la feuille, une femme d'une quarantaine d'années. Un accent méridional prononcé, des yeux verts immenses, la peau tannée par le soleil. Des années d'expérience dans l'humanitaire, des missions aux Philippines ou en Afghanistan. Tout en marchant vers le véhicule climatisé qui va les conduire au camp, Sonia lui garantit qu'il apprendra vite. Tout viendra avec la pratique, avec le temps. Mathieu acquiesce en souriant, un sourire crispé, tendu. Il a envie que ça commence, il n'en peut plus d'attendre.
Il leur faut 4 heures pour atteindre leur but. 4 heures de route rythmées par les chants ancestraux du chauffeur, un type sans âge, à la voix aiguë, tout de blanc vêtu. 4 heures pendant lesquelles Sonia arrache un morceau de biographie à Mathieu. Alors oui, Il a grandi dans une famille modeste. Toujours pas à Hossegor, toujours pas à Miami, non, à Grigny. Une barre d'immeubles immense dans laquelle se produisent des tas d'incidents, des squats, les caves inondées, les cracks, le cafard, les cafards. Aucun duplex de 150 mètres carrés. Les agences immobilières attirent le chaland en parlant d'un quartier authentique, voire historique. Les habitants ont d'autres mots à la bouche.
Le camp de réfugiés. Enfin. Violente tempête de sable. Chaleur suffocante, aucun ventilateur. Le camp est son hôpital vétuste. Et qui manque de moyens, de matériel, de personnel. Les autres membres de l'équipe médicale l'accueillent avec bienveillance. Mathieu enchaîne les poignées de main, baragouine quelques mots polis dans un anglais approximatif, oublie aussitôt les prénoms prononcés avec enthousiasme par ses nouveaux collègues. Tout le monde a l'air ravi de ce renfort. D'ailleurs, on ne met pas beaucoup de temps à le mettre à contribution. Sa valise à peine posée dans une hutte sans confort, on l'entraîne sous une vaste tente, la salle d'hospitalisation.
Ici, deux enfants souffrent de malnutrition sévère. Leur grande sœur les accompagne, à moins que ce soit leur mère. Mathieu essaye d'aider, tente de s'assurer que la mère ne donnera pas la nourriture médicalisée à tous ses enfants. Juste à côté, un garçon de 8 ans, une main arrachée par une grenade. Allongé dans son lit avec son moignon enveloppé de gaz, il gratifie le bleu d'un sourire éclatant. Une heure plus tard, c'est une naissance avec complications, les battements lents du cœur, la couleur inquiétante du nouveau-né. Mathieu agit peu, observe beaucoup. Une fois le bébé tiré d'affaire, il sort griller une cigarette. Il possédait beaucoup d'informations sur la mission et il savait que ce serait difficile. N'empêche, rien ne l'a préparé à ça. Tout semble déjà pire que prévu.
Le soir, bien après minuit, Mathieu gagne la hutte dans laquelle on a installé ses affaires. Il décide aussitôt de poser quelques notes dans un cahier à spirale, son journal de bord. Il veut s'astreindre à remplir une page chaque jour. Très vite, il comprendra qu'il ne lui fallait pas un carnet, mais 10. Il éprouvera le besoin de tout raconter, pour ne surtout rien oublier. Il écrira de plus en plus petit, enchaînera sur les marges des romans qu'il a emmenés dans ses valises. Aujourd'hui, il remplit quelques lignes sur Sonia, un médecin extraordinaire. Tout le monde le reconnaît. Il lui trouve beaucoup de charme. Elle est sa dernière pensée lorsqu'il s'endort. Un sommeil lourd, moite, sans rêve.
Au bout d'un moment, des bruits métalliques, des voix, puis à nouveau le silence. Mathieu tend l'oreille, il se lève et il va voir s'il peut aider. On l'accepte volontiers. Alors il ouvre, il clampe, il transpire, il suffoque. Partout du sang. Et il ne sauve personne. En sortant de la salle d'opération, Mathieu se surprend à penser qu'il ne s'habituera jamais à tout ça. La pauvreté, cette poussière qui imprègne tout, l'odeur de mort et le reste, oui, la beauté atroce du paysage, toutes ces nuances de brun et d'ocre. Un continent étrange, l'Afrique. Sa posologie lui est encore inconnue, mais il pourrait bien en tomber amoureux.
Yeah. so I'll never be me.
Aviva Inouva. Ce poème kabyle évoque la tranquillité d'une famille lors d'une veillée autour du feu. Mais cette paix est menacée par un ogre qui rôde dans la forêt enneigée. Cette chanson a rendu célèbre son auteur et interprète Idir, mort en 2020. Cette version, que nous venons d'entendre, est un duo avec la chanteuse écossaise Karen Matheson. Le refrain dit « Je t'en prie, père Inouva, ouvre-moi la porte, ô fille Griba, fais teinter tes bracelets. Je crains l'ogre de la forêt, père Inouva. Ô fille Griba, je la crains aussi. » Ce refrain fait écho à ces ogres qui, dans toutes les guerres, prennent la vie des enfants. Aucune idéologie, aucune vengeance, aucune histoire ne justifie la mort d'un enfant, le bombardement d'une école ou d'un hôpital. Quelle connerie la guerre, aurait dit Jacques Prévert. Ô fille Griba, nous aussi, nous craignons l'ogre de la forêt.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Et maintenant, quelque chose de plus léger. Je hais les petits chats et la tour Eiffel. Une courte nouvelle écrite par Jean-Claude Épice, qui accompagne les refusés depuis la création de la revue.
Ding dong !
Ça y est, le moment tant attendu est arrivé. Il a sonné. Depuis le temps que j'attendais cet instant, je ne sais plus quoi faire. Je cours lui ouvrir ou je le fais attendre un peu? Ça fait un mois qu'on se connaît. On a déjà eu des hauts et des bas, des engueulades, des ruptures. Mais j'en suis sûre, c'est lui. Celui qu'on attend toutes.
Ding dong!
Il insiste. Cela veut dire qu'il a vraiment envie de me voir. Je cours, j'appuie sur le bouton de l'interphone. Oui ? C'est bon. J'ai cru reconnaître sa voix. Je lui ouvre. Voilà. Dans 2 minutes, 2 étages à monter, et ma vie va changer. Une nouvelle vie, enfin ! Il tarde. Il est long à monter. Ça y est. Je l'entends. Oh ! Son pas est lourd. Aïe. Il vient peut-être m'annoncer qu'en fait, je ne suis pas la femme de sa vie. Je doute. Il vient me dire que par respect, c'est mieux de vive voix. Non, non, c'est pas possible. S'il ne voulait pas de moi, il m'aurait tout simplement pas rappelé. Les hommes sont lâches en général. Il lui aurait suffi de faire le mort et notre histoire se serait terminée, tout simplement. Ça y est. Il est sur le palier. Je l'entends. Mon Dieu, si tu existes, fais en sorte que ce soit mon futur mari et le père de mes enfants qui entrent dans l'appart. Trois petits coups sourds. Je ne tiens plus. Je déverrouille le loquet. J'appuie sur la clenche. La porte s'ouvre.
Oui, bonjour, madame. Excusez-moi. Excusez-moi d'arriver si tard, hein, mais vous comprenez avec ma tournée. Voilà. Alors, ce sont les calendriers de la poste. Bon, il n'y a plus beaucoup de choix. Hein. Il me reste que des petits chats ou tenez, la tour Eiffel. La nuit, hein.
Après cet interlude d'Avishai Cohen, retrouvons notre rubrique Avrac sur l'actualité des refusés.
Depuis les premiers numéros de la revue, nous avons publié à côté de nos textes des gravures et des peintures de Sylvie Coupé-Touron, artiste peintre et graveur. À partir du 26 octobre, elle exposera une quinzaine de toiles de grand format à la médiathèque Gérard Thirion de l'Axou. Le titre de l'exposition, d'un bord à l'autre, résume bien sa pratique comme nous l'a confié l'artiste. L'humain et sa vulnérabilité, mais sa force aussi, ses incertitudes. Cette constante recherche d'équilibre dans un monde parfois, pour ne pas dire souvent, incompréhensible et déstabilisant. Cet équilibre incertain qui fait que tout peut basculer d'un instant à l'autre, d'un bord à l'autre.
Alors, tu nous rappelles, c'est où et quand cette exposition ?
À la médiathèque Gérard Thirion, du 26 octobre au 25 novembre, les mardis, jeudis, vendredis de 14h à 18h et les mercredis et samedis, de 10h à 18h.
C'est parfait, Evelyne.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Ah, alors une deuxième actualité importante pour tous les amateurs de nouvelles. Les 12 000 signes. Portés par la compagnie Les Fruits du Hasard et l'association littéraire Trois Pattes à un Canard, les 12 000 signes est un festival entièrement consacré à la nouvelle. Pour cette quatrième édition, Maëlys de Kerangal en sera la marraine. Au programme donc, des lectures musicales pour les enfants, les ados, les adultes, des banquets, des balades littéraires, rencontres avec les auteurs, librairies ambulantes, tables rondes dans de multiples lieux de Nancy et ses environs. Tout ça, ce sera donc dans les médiathèques, collèges, lycées, aquariums ou jardins botaniques, restaurants, théâtres. Alors soyez curieux, n'hésitez pas à consulter sur le net le site lesfruitsduhasard.com, c'est tout attaché sauf le .com, pour découvrir le programme avec les lieux et les horaires des lectures.
Le festival 12 000 signes est une manifestation gratuite, mais il faudra réserver car certains lieux ont une jauge restreinte. L'ouverture officielle du festival aura lieu le mardi 14 novembre à 18h30 au musée aquarium de Nancy, en présence de Maëlys de Kerangal et de Bernard Friot. Il se terminera le dimanche 19 novembre avec une table ronde à propos de l'adaptation de nouvelles au cinéma à 11h au Pôle Image à Nancy, puis à 15h au LEM, Grand Rue, pour un goûter de clôture. Au cours de ces 6 jours de festival, on entendra des nouvelles de Dino Buzzati, Annie Saumont, Claire Castillon, Benoît Fourchard et bien d'autres. Elles seront mises en voix par des comédiennes et comédiens professionnels et par les bénévoles des Trois Pattes à un Canard, et mises en son par des musiciennes et musiciens professionnels. Si vous aimez les nouvelles, nous espérons vous y rencontrer, car les refusés tiendront la librairie ambulante tout au long du festival. Et pour terminer cette émission, nous vous proposons d'écouter l'absurde Aristo du groupe nancéien Suzanne aux yeux noirs. Thank you.
Ah, j'ai reconnu dans ce groupe Suzanne aux yeux noirs, mon ami Nicolas Arnoux, accordéoniste émérite, avec lequel j'ai joué et arpenté quelques fêtes un petit peu partout dans le Grand Est. Alors, on voulait vous dire aussi, n'oubliez pas aussi que vous pouvez également nous retrouver, quand vous le voulez, sur le podcast de l'émission « Quelles sont les nouvelles ?» sur le site de RCN90.7. Alors, au revoir à tout le monde.
À bientôt.
Au revoir, au mois prochain.